Vrac Zéro Déchet et compagnie.
Bonjour Solène Paillard, est-ce que vous pourriez m'expliquer en quelques mots quel est votre métier ?
Bonjour Natacha, alors moi je suis responsable marketing des marques de glace d'impulsion chez Unilever, donc c'est principalement trois marques.
Unilever, multinationale néerlando-britannique, est présente dans plus de 100 pays.
Et donc c'est quoi le brand building exactement ?
Le brand building, c'est une terminologie en effet qu'on utilise beaucoup chez Unilever. On va dire que comme son nom l'indique, c'est de construire et de faire vivre la marque au quotidien.
Il s'agissait en 2010, par son volume de vente, du quatrième acteur mondial derrière Nestlé, PepsiCo et Coca-Cola Company, du marché de l'agroalimentaire et du premier producteur de glace et de thé au monde. Un fleuron de notre belle mondialisation.
Quels sont les challenges que vous devez relever dans votre métier ?
Il y a des années où l'innovation qui est lancée en Europe, elle va très bien convenir au marché français et d'autres années, elle va plus convenir au goût des Anglais par exemple et moins au goût des Français. Un des challenges pour nous, c'est de s'assurer que chaque année, l'innovation qui est développée sur notre marché et qu'on va lancer, elle fit parfaitement avec les attentes qu'on peut avoir.
En 2020, la société employait 149 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 51 milliards d'euros. Une affaire qui marche sur la tête des gens peut-être, mais qui marche.
Et puis enfin, je dirais que quand on est chef de produit...
À son palmarès aussi, la multinationale apparaît en troisième position du top 10 des entreprises pollueuses au plastique en l'an 2021.
Déjà à l'époque, c'était vraiment pour acquérir les techniques des grands groupes.
C'est le mouvement Break Free from Plastic qui a publié son audit de marque 2021 qui établit ce top 10 des plus grands pollueurs plastiques dans le monde. Sans surprise, Coca-Cola Company maintient sa première place. Et donc Unilever, nouveau venu sur le podium depuis 2021 et qui est aussi un partenaire officiel de la COP26. Vous savez, cette conférence des nations qui se tient annuellement pour déplorer que les précédentes éditions n'ont pas tenu leurs promesses. Et donc, pour en refaire de nouvelles, de promesses, ou plutôt de projets.
Il faut savoir faire rayonner sa marque au sein de
une des solutions locales qui pourrait peut-être nous faire sortir de ce cercle vicieux serait le vrac.
Autour de projets spécifiques sur la marque.
Le vrac, du néerlandais vrac, mal salé, mauvais. Désigne des marchandises qui ne sont pas emballées ou arrimées. Le terme est particulièrement employé dans le domaine du transport pour distinguer le transport de marchandises unitaires sur palette, en container ou en boîte, des marchandises en vrac, comme le sable dans un camion-benne. Le terme vrac est également utilisé dans le domaine de la vente. La vente en vrac consiste à vendre aux consommateurs ou consommatrices des produits de consommation sans emballage en quantité choisie par le consommateur dans des contenants réemployables et réutilisables. En France, la vente en vrac en service assisté est le mode de distribution le plus fréquent jusqu'au 19e siècle. Cette vente reste aujourd'hui présente dans certains magasins spécialisés vrac, sous la forme d'épiceries fixes ou itinérantes, ainsi que dans des supermarchés. Vente aux services assistés, aux stands de charcuterie et traiteurs, boucherie et au secteur du fromage, vente en libre-service dans des rayons dédiés à l'épicerie sèche. Elle permet de faire des achats en économisant le prix de l'emballage, qui peut être réutilisé plusieurs fois par le consommateur. Ce modèle est promu par exemple par les Biocoop et le réseau des magasins spécialisés Greenvrac et Day by Day. Les années 2010 ont vu une très forte augmentation du secteur de la vente en vrac en Europe. Il est estimé qu'en 2023, la quantité d'emballage que les magasins de vente en vrac auront permis d'économiser dans l'Union européenne est d'environ 5500 tonnes. Nous sommes allés à la rencontre d'un magasin vrac d'Albi, Food Vrac exactement, avenue de l'Âtre de Tassigny. Nous rencontrons ses gérants début février 2022.
Alors, mon nom, c'est Joël Camelot et Marie-Laure Camelot, qui est mon épouse. En fait, nous, on vient de Bordeaux, Et il y a 7 ans, en 2020,
ouais.
Non, pas 2020, 2014. Ouais. 2014, on est arrivé dans la région, à Toulouse. Et on a juste pris conscience en fait d'une quantité de déchets qu'on générait. Voilà. Et on a voulu essayer de les réduire en allant dans des magasins spécialisés. En vrac, quoi. Et il a fallu, on s'est aperçu que rapidement il fallait aller à Toulouse, etc. À l'époque, on vivait à Villemur-sur-Tarn. Donc ça commençait quand même à faire du voyage, etc., etc. Et voilà, de là est née l'idée. Commencer à naître l'idée, on se dit mais il faut démocratiser tout ça et pourquoi pas implanter un type de magasin, voilà, et puis de fil en aiguille, voulant changer de métier, etc., on a fini par monter Foodvrac.
Du coup, vous avez d'abord changé vos habitudes
On a essayé. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas simple, quoi. C'est pas simple parce que s'il n'y a pas l'outil, s'il n'y a pas le service, on peut pas. Même si on veut juste diminuer, le but c'est pas d'être absolument zéro déchet, parce que c'est pratiquement impossible. Mais je pense que si tout le monde fait un petit geste, on va arriver à faire quand même un gros impact à la fin. Voilà, on n'est pas obligé de passer absolument au zéro déchet, c'est très compliqué.
Vous êtes à l'écoute de Radio Albitzès à la rencontre de Joël et Marie-Laure du magasin Foodvrac d'Albi, une entrevue enregistrée en février 2022.
Donc 2 ans de vie, même si compliqué pour le démarrage avec le Covid, etc. C'est une jolie petite épicerie. Combien de références vous avez? Est-ce qu'on peut dire un peu, c'est alimentaire d'abord, essentiellement, mais il y a aussi des produits ménagers?
Oui.
Oui,
tout à fait. Il y a beaucoup d'alimentaire. Alors on est sur entre 700 et 800 produits en fonction des fruits et légumes. On y trouve de l'épicerie salée, des épiceries sucrées, des boissons, de la bière, on trouve des fromages, des produits frais, des yaourts, des fruits et légumes, et après on a effectivement tous les produits d'entretien, etc., des bonbons, des chocolats, tout en vrac, en grande partie en vrac, parce qu'on doit être à 95% de produits en vrac. À part les yaourts, évidemment, ça on peut pas faire grand chose, et puis certains produits qui ont des normes bien précises et l'huile d'olive qu'on ne va pas en vrac pour des raisons aussi de législation qui est tellement compliquée que voilà, l'huile d'olive française, hein. Voilà.
C'est quoi la question qu'on vous pose le plus, parce qu'il y a peut-être des peurs? Moi je suis venu l'autre jour avec mes propres bouteilles pour prendre du vinaigre blanc, mais peut-être il y avait d'autres façons de faire. Est-ce qu'il y a des gens qui vous posent des questions sur mais comment je vais faire si j'ai...
Ouais, en fait, c'est une des premières questions que les gens se posent. C'est le vrac, c'est bien, mais alors il faut venir essayer contenant, etc. Nous, ce qu'on préconise, c'est en fait de venir un peu comme vous êtes, quoi, les mains dans les poches, déjà pour prendre connaissance du magasin, des produits qui y sont présentés. Et à l'intérieur du magasin, vous avez des poches de papier craft dans lesquelles, qui sont mises à disposition, vous pouvez prendre des produits en quantité que vous souhaitez à partir du moment où on peut le peser. Voilà, c'est bon. Donc ça peut être, je sais pas, 2 grammes, 1 gramme, enfin voilà. L'avantage, c'est de pouvoir goûter un maximum de choses pour pas cher du tout, quoi. Voilà. Et en plus de ça, on a certains articles comme par exemple les gâteaux qui sont au même prix. Donc on peut prendre par exemple un gâteau de chaque. Voilà, on prend la quantité qu'on veut, on les mixe à partir du moment où c'est le même prix. Les bonbons, c'est la même chose. Ça, les bonbons, c'est plus pour les enfants. Voilà.
Et donc après, on réutilise le papier craft.
Et après, évidemment, le mieux, c'est de revenir avec. Alors, soit de revenir avec, soit vous le déchirez, vous le mettez dans la du chat.
Ah, de la litière du chat.
Dans la litière du chat, par exemple, ou on le met au compost.
elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit fou. Et du soir au matin, dans son petit magasin, là, elle vendait les petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses deux petites brioches au lait. Un jour dans sa boutique, un vieux monsieur entra, d'un petit coup d'œil oblique, vite il la remarqua. Pour parler à la belle, il choisit des bonbons. Donnez-moi mademoiselle un cornet de marron. Et d'un petit air malin, il en prit deux dans sa main. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Je vous offre, dit-il, mon coco, des marrons et mon cœur chaud, dit-elle, vous l'avez, et les marrons sont glacés. Il s'assit à une table pour manger un petit chou. Elle se montra aimable, elle offrit un peu de tout, puis insista coquette pour qu'il prît du nougat. Mais lui, hochant la tête, tristement répliqua, à mon âge, voyez-vous, je prends plus que du caramel mou, mou. Oh, elle vendait des petits gâteaux dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. Le vieux lui faisait les yeux blancs, il sonçait en tremblotant. Dans un verre d'eau et d'orgeat, une pauvre petite langue de chat. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensait énervée, il ne partira pas, ne sachant plus que faire pour le dévisser du sol. Elle lui dit en colère, mangez ses croquignoles. Il répond d'un ton sec, je n'aime pas les gâteaux secs. Elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. Elle lui dit d'un petit air doux, bah mon cher monsieur, si vous n'aimez pas les gâteaux secs, mangez dans la merde avec.
Oui, parce qu'après c'est les habitudes qu'on a, ouais, qu'on a désappris des choses en fait, puisque venir avec un cabas, avec un chariot à roulettes ou des choses comme ça, ça se faisait.
Oui. Bah, on joue fin, c'est... Ouais, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire c'est la... C'est la facilité absolue, quoi. La facilité. Et puis aussi, les gens, ils travaillent, il ne faut pas oublier, quoi. Et du coup, c'est bien beau de dire que c'est la facilité, mais pas forcément aussi. Il y a des obligations. Alors, on va faire des courses, on ne va pas y passer 3 heures. Hein, voilà. Après, il y a des gens qui viennent, et c'est un plaisir pour eux, quoi. Ça devient un plaisir. Ça devient un plaisir de venir dans un magasin, voilà, tester tel ou tel produit. Ou, voilà, c'est comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient ici avec ses contenants, la première des choses à faire, c'est de les faire peser. C'est-à-dire qu'en l'état, on note sur le contenant son poids. Mmh. La personne après va faire ses courses, prend ce qu'elle veut, elle les remplit. Et ensuite, quand elle passe en caisse, on repèse la totalité
en enlevant
le poids du contenant. Et du coup, on ne paye vraiment que ce que l'on a pris. Voilà.
Donc c'est un moyen de faire des économies aussi.
Oui, complètement.
Vous payez pas l'emballage, quoi.
Voilà, c'est ça, vous payez pas l'emballage. Après, les économies, c'est sur autre chose, je pense. Hein. Les économies, c'est surtout sur la quantité. Pourquoi acheter un kilo de pâtes pour l'avoir un 42, ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, le prix du kilo de panzani chez Edouard, par exemple, c'est ça. Ici, il y a un 42 aussi. Certaines pâtes, pas toutes, hein, parce qu'on en a aussi qui sont à 6 euros le kilo. Mais c'est 1,42 quel que soit le poids. Je veux dire, si on en prend 50 grammes, eh ben, ça sera 7 centimes ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, c'est pas... Voilà, ça c'est en ça que est la grosse différence, quoi. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire, en France, c'est 30 kilos par personne, dont 7 kilos qui sont des aliments emballés. C'est-à-dire même pas consommés, on n'y a pas touché, poubelle, parce que date de péremption. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de date de péremption, mais c'est pas la peine d'acheter des quantités énormes pour... Voilà, et c'est là, c'est dans ce mode de fonctionnement que les économies se font. Ben, parce que, voilà, enfin, je vais pas me répéter, mais on peut prendre 20 grammes. Alors, vous avez une recette, vous voulez la tester ? Ben, n'achetez pas 500 grammes de farine machin, 300 grammes de sucre bidule. Voilà, vous prenez que ce dont vous avez besoin ici. Vous voulez 2 œufs ? Voilà. Prenez 2 œufs, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on a plein de gens qui viennent et qui partent avec, des amendes qu'ils ont payées à 1,20€. Enfin, voilà, ça arrive fréquemment. Hein.
Oui. Alors, sur toutes ces références, combien est-ce que vous arrivez à avoir dans des produits locaux, bio, pas que c'est, vous avez un peu d'étroit. Ouais. Qu'est-ce qui manque là, on en parlait hors micro tout à l'heure. Vous venez d'arriver dans le Tarn depuis quelques années. Les fruits et légumes, c'est compliqué. Qu'est-ce qui vous manque encore comme produit pour...
Ah, ben les fruits et légumes, hein. Les fruits et légumes, c'est clair que c'est difficile. Ouais, il n'y a pas de maraîcher, quoi. Y a pas, donc, voilà, si quelqu'un nous entend et qui fait du maraîchage, c'est le moment de venir nous voir, quoi.
Et les fruits surtout aussi,
oui. Et les fruits aussi, oui. Ben, fruits et légumes, quoi. Je veux dire, ça c'est le souci. C'est pour l'instant notre souci. On cherche aussi, alors ça, c'est un gros appel à l'eau, au secours, c'est du lait.
On avait un producteur de lait entier pasteurisé ou demi-écrémé qui malheureusement arrête et j'ai pu le remplacer que par du lait cru. Et le lait cru, la date est très courte, là, j'ai 5 jours de date dessus. Donc voilà, ça, le client, ça le gêne un peu. Quoi. Dans le sens qu'il faut qu'il rentre à la maison, il faut qu'il s'occupe de sa bouteille de lait, s'il veut pas, ou il faut qu'il la consomme dans les, dans les 4 ou 5 jours qui suivent. Quoi. Donc, c'est assez embêtant.
Donc il y a des filières à créer encore, à recréer.
Oui, alors c'est très compliqué pour eux. C'est très compliqué. Nous, le producteur dont parlait Marie-Laure, en fait, c'était quelqu'un qui nous faisait du lait en bouteille de verre, consigné. Donc ça, voilà, c'était...
Parfait.
Parfait. La seule chose, c'est que les législations qui sont derrière européennes, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que récupérer des bouteilles, parce que ça, on en parle souvent, ouais, on récupère pas ci, on récupère pas là, ouais, d'accord. Mais il faut voir que le producteur derrière, même celui qui vend du pâté ou du yaourt, il faut les laver, il faut les entretenir. De toute façon, il faut changer les couvercles, ça, c'est obligatoire. Défaire les étiquettes, en remettre d'autres. Voilà, c'est une logistique, c'est vraiment une... un comportement, je pense, purement écologiste, là, pour le coup. Hein. On veut faire ça, et ils le font comme ça, parce qu'il y a de la volonté. S'il n'y a pas de volonté, voilà. Après, le verre, ça se recycle très bien, il n'y a pas de souci particulier avec ça. Nous, on en a besoin énormément de pots, donc voilà. Et chez nous, les consignes, on ne les fait pas. Enfin, on ne les fait pas. On ne le fait pas payer aux clients.
Oui.
D'accord. C'est-à-dire que ça devient une espèce d'usine à gaz. Ça arrive à un moment, on a plein d'argent, enfin plein d'argent, pas plein d'argent, mais on est obligé de mettre cet argent de côté sur des comptes à côté, etc., en comptabilité, pour les rendre après. Souvent, les gens ne viennent pas, mais ils ont perdu leurs consignes. Enfin, voilà. Donc, du coup, on a décidé de ne pas le gérer et on fait entièrement confiance aux gens pour qu'ils nous ramènent les pots qui sont consignés. Donc, ils le savent, on leur dit, ils nous... ça marche très bien, franchement. Hein, on n'a pas de... Il y en a qui se perdent, hein. Il y en a qui se perdent, mais, ou qui ne reviennent plus, mais...
Qui se casse,
ouais, aussi, ouais, voilà. Donc, ouais. Oui, puis ça pèse sur le, ça pèse aussi sur la note.
Ouais.
Mine de rien, bah, 20, 30 centimes, vous cumulez par deux yaourts, 40 centimes de plus, etc. Ça finit par douiller, quoi. Enfin, à coûter cher, cette histoire. Hein. Donc, voilà. Même si on y a 30% ou 30 centimes, là. D'autant plus que nous, on ne sort pas les tickets de caisse. Si le client ne demande pas, il n'y a pas de ticket de caisse. D'accord, faut vraiment qu'ils demandent le ticket de caisse pour l'avoir. À l'inverse de ce qui se passe dans les grandes surfaces où on vous sort systématiquement. Et même si on vous dit non, j'en veux pas, on vous sort quand même des cartes bleues longues comme un bras. Il y a l'impression qu'on a passé un arbre pour faire un truc de carte bleue, quoi. Enfin, bon, bref. Donc on sort systématiquement le ticket de carte bleue, mais le ticket de caisse, non, il y a la possibilité de s'inscrire et de le recevoir aussi par mail.
France Info Conso avec le magazine 60 millions de consommateurs. Nous sommes avec Patricia Chéropoulos. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Dans le numéro du mois de décembre, un dossier sur la vente en vrac, sans emballage.
France Info.
Sans conditionnement, c'est clairement un marché qui se développe.
Décembre 2021.
Oui, complètement, même si ça reste encore évidemment minoritaire. Hein, mais autant avant, on le mettait sur le dos des bobos parisiens, on va dire. Maintenant, c'est vraiment un essor, puisque par exemple, le chiffre d'affaires a été multiplié par 12 en 6 ans. Et d'après une étude de l'Institut Nielsen, 4 foyers sur 10 achètent du vrac, dont 40% en achètent régulièrement. Donc oui, on peut vraiment parler d'essor, oui, tout à fait.
Alors quels sont les produits qu'on peut aujourd'hui acheter en vrac ?
Alors c'est principalement des denrées alimentaires et principalement des produits secs, aussi bien des graines, du riz, de la farine, des lentilles, des céréales, et désormais également des aliments liquides comme l'huile, le vinaigre et le vin. On trouve aussi des produits d'entretien, notamment comme la lessive liquide par exemple.
La question centrale, Patricia, est-ce qu'on fait de bonnes affaires ? Est-ce qu'acheter en vrac, c'est acheter moins cher ?
Ben non, le vrac n'est pas forcément moins cher que les produits emballés. Nous l'avons constaté en fait avec une étude menée sur, on a fait des relevés de prix dans 500 magasins, donc aussi bien des hypermarchés que des épiceries bio, que des magasins spécialisés dans le vrac. Et nous avons étudié 8 produits comme le riz blanc, les lentilles vertes, le sucre cristal, le vinaigre, etc. Tout ça pour dire que au final, nous avons constaté que les produits en vrac non bio, donc on appelle conventionnel, sont globalement plus chers en vrac que lorsqu'on les achète en paquet.
Non, ça peut sembler assez paradoxal, mais donc pour les produits bio, c'est plus intéressant.
Oui, là nettement, hein, c'est ce qui ressort de notre étude. En revanche, pour les produits bio, bon, déjà il y a beaucoup plus de choix en produits bio, hein, parce que à la fois c'est historique, et puis qui dit bio, ben, dit a priori protection de l'environnement, donc moins d'emballage. Donc on a un grand choix, et effectivement les produits bio en vrac sont globalement moins chers que les mêmes produits en pré-emballés. Hein. C'est notamment le cas ben, pour les lentilles vertes, pour le riz, on voit que ça peut aller jusqu'à 22% moins cher que lorsqu'on les achète pré-emballés.
Est-ce que l'achat en vrac est possible partout? Est-ce qu'on peut arriver avec ses bocaux, ses propres sacs? Est-ce que c'est généralisé?
Justement, c'est possible, mais pas partout. Le vrac n'est pas encore suffisamment répandu, notamment dans les super et hypermarchés traditionnels. Là, ça va être très compliqué. En revanche, de plus en plus d'épiceries bio et évidemment dans les magasins spécialisés en vrac. Alors souvent, ce sont des magasins relativement petits en centre-ville, mais qui, eux, misent vraiment sur le vrac et le fait d'apporter ces contenants. Parce que la signification du vrac, c'est justement ne pas gaspiller de sacs. Donc effectivement, si vous voulez vraiment jouer la carte du vrac et apporter votre contenant, à ce moment-là, il vaut mieux privilégier donc les épiceries bio et mieux encore les magasins spécialisés en vrac. Où là, vous entrez dans le magasin, vous pesez vos contenants et après la caisse, évidemment, le poids du contenant sera ôté du poids global.
Pour autant, ce que vous montrez aussi, Patricia, dans ce dossier, c'est qu'acheter en vrac, ça n'est pas forcément du zéro déchet.
C'est plus intéressant, hein. Globalement c'est plus intéressant, mais ce qu'on oublie souvent c'est qu'en amont, c'est-à-dire lorsque les produits en vrac sont transportés notamment et apportés jusqu'à le magasin, ben, ils sont emballés. Et souvent ce ne sont pas des énormes contenants, ça peut être 10 kilos par exemple, donc là ben, c'est déjà un emballage, parfois même en plastique. Ensuite ben, le consommateur va prendre des petites quantités et surtout s'il n'a pas de contenant, il va les remettre dans des petits emballages peut-être pas toujours recyclé. Donc on ne peut pas dire qu'il y a zéro déchet d'emballage. Il y en a, et notamment dans la chaîne en amont, la chaîne de distribution. Autre chose aussi, on sait que les consommateurs, même s'ils achètent les quantités souhaitées en vrac, il y aura quand même du gaspillage malgré tout chez eux. Ils n'auront pas forcément fini les lentilles ou le riz. Et surtout, il y a le problème des mythes alimentaires, qui est le point noir en fait des achats en vrac. S'ils stockent un petit peu trop longtemps, ils ont acheté ces produits avec déjà des mythes à l'intérieur, évidemment, ben, ce produit sera jeté.
Merci Patricia Chéropoulos. Quand le vrac nous emballe, c'est le titre de ce dossier que vous signez dans le magazine 60 millions de consommateurs. C'est en kiosque en ce moment et à réécouter sur franceinfo.fr.
Oui, alors ça sur le site, on est obligé de mettre une quantité minimum parce que ça devient compliqué après de peser vraiment. Il y a des épiceries qui l'ont, enfin il y en a une qui le fait au gramme. Voilà, mais je vois même pas comment ils disent. Bon, moi, peu importe. Oui, c'est compliqué pour le peser, etc. Ça doit être. Bon, bref, ça crée de l'emploi en tout cas, c'est déjà ça. Ouais. Donc nous, on a fait 100 grammes pour la plupart des choses, sauf les produits à l'unité. Et les épices, je crois qu'ils sont par 10 grammes. Et il y a un autre produit que j'ai rentré il n'y a pas longtemps, c'est 20 grammes, enfin je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà, c'est indiqué, il y a le prix et par voilà, telle unité, c'est-à-dire 100 grammes. Voilà. Et évidemment, sur le détail du produit, vous avez le prix au kilo qui s'affiche. Donc vous pouvez comparer plus facilement.
On rappelle du coup le site internet et peut-être les horaires d'ouverture.
Alors, le site internet, c'est foodvrac.fr, tout attaché, foodvrac.fr. Et les horaires du mardi au samedi de 9h à 19h non-stop. Voilà.
On a aussi la page Facebook.
Il y a une page Facebook, oui, il ne faut pas hésiter. Voilà. Et comment il s'appelle ? Instagram. Voilà. Donc voilà, on peut nous joindre partout. Et puis, faut pas hésiter à venir nous voir. On ne mange personne. C'est open.
Et merci beaucoup à vous.
Je vous en prie, avec plaisir.
Merci à Joël et Marie-Laure du magasin Food Vrac à Albi, ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h. au 142 bis avenue de Lattre de Tassigny et qu'on peut retrouver sur le net foodvrac.fr. Une épicerie de quartier, une épicerie zéro déchet, du moins qui tente de s'en rapprocher. Et le zéro déchet, c'est aussi une association dont une antenne albigeoise existe. Créé en 1997 sous le nom de Centre National d'Information Indépendante sur les Déchets, la CNID, dénomination qu'elle conservera jusqu'en juin 2014, Zéro Déchet est à l'origine un lanceur d'alerte. Il s'agissait notamment de faire connaître les dangers de l'incinération des déchets pour obtenir une réglementation plus contraignante sur les rejets des installations, par exemple sur les dioxines. Rapidement, l'association décide de s'attaquer à la source du problème, la production de déchets, et plus largement, le gaspillage des ressources naturelles. Localement, à Albi, un collectif se monte autour de ses valeurs, épaulé dans un premier temps par l'association Actif, association de citoyens en transition pour des initiatives facilitées.
C'est la raison de la réunion de ce soir et de la construction de l'association Zéro Déchet Albi. Voilà.
Donc moi c'est Anaïs, membre du collectif Zéro Déchet Albi.
Moi c'est Arnaud, membre du collectif, tout comme Anaïs, du collectif Bientôt Future Association de Zéro Déchet Albi.
On aura peut-être l'occasion de faire plus d'événements, plus d'actions, sur une plastique attaque, d'être sur peut-être deux supermarchés en même temps. On trouve quelque chose de fou quoi.
Les supermarchés acceptent, mais.
Non mais voilà, tu vois, c'est.
En termes de réflexion par rapport à.
Moi ça fait. Un peu plus de deux ans, c'est le Covid. On dit que le Covid a changé des vies. Moi, ça m'a permis d'intégrer le collectif Zéro Déchet Albi.
Et pour ma part, à peu près à sa création, quelques mois après, c'est-à-dire début 2017.
Pour courir de toute façon les projets, il y a une idée éventuellement de pouvoir élargir aussi en termes de nombre, en termes d'action, en termes de moyens, qui est pas négligeable, qu'il faut retenir.
Alors moi, personnellement, j'avais déjà commencé à faire quelques petites choses. Dans la vie quotidienne. Mais après, le fait de s'investir dans le collectif, ça permet aussi de prendre conscience des enjeux peut-être politiques ou des enjeux globaux, en fait, liés à la production de déchets.
Et pour ma part, c'est la continuité, finalement, d'une démarche personnelle au sein de notre foyer de réduction de déchets. Et donc, dans la continuité d'intégrer ce type de collectif, ça permet de matérialiser et finalement de répandre la bonne parole auprès de plus grand nombre.
On peut peut-être demander que la personne réadhère, mais même si elle n'a pas envie de donner de l'argent, elle donne pas d'argent, elle dit juste je réadhère. Quoi.
Oui, voilà.
Chaque année. Ou alors on dit adhésion à vie.
Aussi.
Et tu donnes on fait appel à
dons
chaque année.
Tu peux faire les dons.
Oui, voilà.
Déductible.
Et du coup, en termes d'association, des dons déductibles.
Là, ce soir, il y a des discussions autour des statuts, des choses comme ça. Donc, ça, on va vers une association loi 1901. Ça a été un collectif, justement. Qu'est-ce que c'est qu'un collectif informel ? Comment il a vécu jusqu'à présent ?
En fait, c'est vrai que jusqu'à présent, on était un collectif, c'est-à-dire que vient qui veut, quand il veut et quand il peut surtout. Et il s'investit sur les sujets qui lui plaisent et les actions qui lui plaisent. On était un collectif, mais c'est vrai qu'on était hébergé par deux associations quand même qui nous permettaient d'exister et permettaient de faire des actions. Il y avait à la fois sur Albi localement, Albi en transition et actif, qui nous portait juridiquement, et on est rattaché à Zero Waste France, qui est donc une ONG, une asso nationale qui porte le même message que nous.
Bea Johnson est devenue en quelques années la papesse du zéro déchet grâce à 5 astuces clés: refuser le superflu,
Alizé TV,
réduire le nécessaire, remplacer tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable.
Décembre 2015.
Acheter d'occasion et recycler. Elle vient partager ce nouveau mode de vie écologique et économique avec les Guadeloupéens.
En fait, on a eu un déclic lors d'un déménagement où on a été forcé de vivre avec moins. Et c'est là qu'on a découvert que vivre moins nous permettait de faire plus. Ensuite, grâce au gain de temps qu'on a pu faire en vivant simplement, on a pu s'éduquer sur les problèmes de l'environnement. Et là, ce qu'on a découvert nous a fortement attristé, mon mari et moi, en se rendant compte du futur qu'on allait léguer à nos enfants. Donc, on a voulu changer notre façon de consommer. Et à ce moment-là, le terme zéro déchet n'était employé que pour décrire des pratiques industrielles ou de gestion de déchets à l'échelle municipale. Et pour moi, en tout cas, ça m'a fait un déclic, un nouveau déclic. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est zéro déchet. Si on n'est pas pour zéro déchet, pour combien de déchets est-ce qu'on est ? Et à partir du moment, disons, ce terme, ça nous a donné un but pour pousser les choses un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui on ne génère qu'un bocal de déchets par an. Donc, on n'est pas sectaire, hein. Lorsque on va chez des amis, on respecte leur mode de vie, tout comme quand eux ils viennent chez nous, ils respectent le nôtre. Donc voilà, quand on est à l'extérieur de chez nous, bien sûr on s'adapte à ce qui nous est offert.
Les actions, peut-être on peut en citer quelques-unes.
Bon, les principales, on va dire, c'est tout ce qui est journée de ramassage de déchets qui marche plutôt bien. Alors, les plastiques à taxes, c'est quand on se rend dans des supermarchés pour échanger et recevoir l'ensemble des déchets produits par notre consommation dans un chariot en sortie de caisse, les emballages. On a aussi organisé l'année dernière une grande opération de pesée de déchets qui a plutôt bien marché, où une vingtaine de foyers de l'Albigeois ont pesé leurs déchets pendant 6 semaines. Il y en a aussi beaucoup d'ateliers auprès des particuliers, mais aussi auprès des écoles à but pédagogique sur comment limiter les déchets et quelles solutions il est possible d'avoir pour les réduire.
Ça a bien répondu au niveau à la fois des particuliers, et on a parlé de supermarchés, ou est-ce que ça bloque un peu aussi est-ce qu'ils ont peur d'une mauvaise pub
Alors, au niveau de supermarché, on travaille principalement avec une enseigne avec qui ça se passe bien, puisque la responsable est dans cette démarche à sa mesure. Après, c'est quelque chose qu'on souhaite renouveler parce que ça permet de se confronter finalement à des personnes qui ne sont pas directement dans cette démarche. Quand vous organisez, comme on a fait, une pesée de déchets, on va toucher des personnes qui sont engagées dans une démarche de réduction de déchets, alors que quand on va se rendre dans un supermarché, et finalement, on retrouve de tous les profils, des personnes qui ne font pas du tout attention, qui ne sont pas du tout sensibilisées, donc c'est peut-être le moment, des personnes qui le sont un peu plus. Mais voilà, on est confronté finalement à un public différent, et c'est à ce moment-là peut-être que la parole, notre parole et notre démarche peut peut-être peser un peu plus qu'aux personnes des personnes déjà sensibilisées.
Alors justement, la démarche, est-ce qu'elle est, c'est quoi le biais ? Est-ce que c'est culpabilisant ? Est-ce que c'est plutôt pédagogique ? Comment vous parlez de ce problème qui est quand même assez épineux, puisque on y est tous confrontés, peut-être on produit toujours tous et tous des déchets, et peut-être on ne veut pas voir la poussière sous le tapis.
Justement, je pense que l'idée, en fait, c'est d'abord de montrer, en fait, parce que je pense que, en fait, tout le monde met des déchets dans sa poubelle, mais personne ne se rend compte, en fait, vraiment de où est-ce que ça va. Donc, c'est d'abord informer, en fait, qu'est-ce qui se passe après qu'on a mis, en fait, notre déchet dans la poubelle, pour que les gens prennent conscience, en fait, que ça disparaît pas, comme ça, une fois qu'on met le déchet dans la poubelle, et qu'il se passe des choses, et que ça a un impact, forcément, sur l'environnement et sur notre terre. Donc, c'est d'abord faire prendre conscience aux personnes de cela, et puis après, leur faire prendre conscience aussi qu'il y a des gestes qui sont quand même plutôt assez simples, qu'on peut mettre en place, d'autres gestes qui sont plus contraignants, mais voilà, que, en fait, pas à pas, on peut avancer et qu'on peut avoir vraiment un vrai impact qu'on peut facilement mesurer après sur sa production de déchets.
J'ai un super magnétophone et un super magnétoscope. J'ai aussi plusieurs téléphones et même aussi des interphones. J'ai 2 mini talkie-walkie ainsi que le super mobile. J'ai un tas de boutons de manchette et des milliers de 30 cm. J'ai une télé portative et une télé grand écran. J'ai aussi une rotative ainsi qu'une poire à lavement. J'achète je le jette. chaîne haute fidélité. Un percolateur pour le café. J'ai aussi une corde à sauter. Sans quand tes mains l'ont pas bronzé. J'ai une peinture de Dubuffet et une aquarelle de Buffet. J'ai des boots et des snow boots et aussi une paire de moumous. J'ai de l'utile et de l'agréable. J'ai du plus et du superflu. Des choses promptues, impromptues. J'en ai sur mon lit, sur ma table. Chercher tout.
Est-ce qu'il y a un argument économique à donner aussi, peut-être, de dire ben, il y a peut-être, c'est peut-être, ça deviendrait moins cher s'il y avait moins de suremballage, d'emballage ?
Alors là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, des personnes ont une réticence sur le zéro déchet en se disant « Oui, mais ça coûte plus cher, etc. » Parce qu'on assimile aussi le zéro déchet à une meilleure qualité aussi de produit, parfois. Ce qui est parfois le cas. Mais il y a beaucoup de solutions, finalement, de zéro déchet, de limitation de déchets qui font économiser de l'argent. Et ça, c'est un levier qui peut être intéressant à soulever, surtout pour toucher peut-être des milieux un peu plus populaires qui ont des difficultés financières, qui n'ont effectivement pas le temps de se soucier de ce genre de principe, puisque quand on a des difficultés financières, on pense déjà à manger, à se loger, à avoir chaud chez soi. Enfin voilà, il y a des priorités. Mais de faire comprendre que de limiter ses déchets, peut permettre de faire des économies. Ça, c'est quelque chose qui est crucial, effectivement.
Moi, j'aimerais rajouter peut-être qu'en fait, donc on parle beaucoup de déchets, mais en fait, c'est beaucoup de gaspillage aussi. Zero waste, en anglais, ça veut dire surtout gaspillage, en fait. Et donc, l'idée, en fait, c'est de limiter les déchets, mais aussi le gaspillage. Et donc, notamment, enfin voilà, tout ce qui est seconde main, par exemple, ça limite à la fin les déchets. Et là, on se rend bien compte que réutiliser des objets, acheter d'occasion, et ben ça, c'est des gestes quotidiens qui vont faire économiser énormément d'argent et qui permettront peut-être d'aller acheter sur la nourriture, par exemple. Peut-être que sur la nourriture, si on veut être zéro déchet, ça va peut-être coûter un peu plus cher. Mais en fait, si on adopte une démarche qui va être globale sur l'ensemble de ses postes quotidiens, je parlais des vêtements, des meubles, de l'électroménager, et ben là, en fait, si on aborde donc cette démarche globale, et ben ça va vraiment permettre de faire des économies.
Alors pour finir, un déchet dont vous vous êtes facilement passé ou que vous ne produisez plus, et puis un déchet qui vous est encore qui est encore compliqué à ne pas émettre.
Facile à faire pour beaucoup de personnes, c'est le café. Beaucoup de Français, d'adultes, en consomment, mais souvent à base de capsules. Ça, c'est une plaie finalement. Les capsules, c'est horrible pour la planète et pour le porte-monnaie. Demain, au lieu d'acheter une machine à café avec capsule, vous achetez une machine à café à broyer. Avec du grain.
Chez Emmaüs éventuellement.
Exactement, ou chez le voisin. On gagne de l'argent et on aide la planète. Et le café est peut-être meilleur. Jackpot.
Pour moi, le facile, ce serait la bouteille d'eau en plastique. Parce que c'est vrai que maintenant, on peut acheter des gourdes à chaque coin de rue. Et c'est vrai que avoir peut-être une petite gourde, une moyenne, enfin voilà, on peut aussi avoir plusieurs gourdes qui permettent en fait en toute situation d'avoir de l'eau à proximité. Moi j'ai une toute petite gourde qui fait 25 centilitres que je peux avoir dans mon sac à main en permanence et qui est donc pas très lourde et qui en fait qui m'évite que si je me balade en ville ou si je me balade quelque part, et j'ai pas besoin d'avoir ma bouteille d'eau en plastique.
Alors un compliqué maintenant, un qui est encore là quoi.
Le papier toilette. Le papier toilette, on en consomme énormément. Enfin, je ne saurais même pas le quantifier en termes de feuilles ou de rouleaux, peu importe. Certaines personnes le font. Alors, ça peut commencer par les enfants, les bébés. Au lieu d'utiliser des lingettes jetables, alors surtout pas avec hydroalcoolique, ça c'est à bannir. Mais bon, du coton jetable, on peut commencer par du coton lavable. Mais l'étape, pour moi, le papier toilette, c'est l'étape ultime de la conversion zéro déchet. Il y a beaucoup d'étapes avant, hein. faut pas se leurrer, mais effectivement, le papier toilette qui peut être remplacé déjà par pour les urines, pour les cotons lavables. Mais voilà, je pense que je connais personne qui l'utilise, mais c'est l'étape ultime et ouais, quand on en est là, c'est que je pense qu'on a tout fait pour la planète.
Ouais, alors ben moi, bizarrement, mon argument, il est un peu du même type. Et pour moi, c'est les mouchoirs en papier. Étape que... Non, mais c'est vrai, j'y avais pensé avant. Moi, j'ai absolument, pour l'instant, pas réussi du tout à passer aux mouchoirs en tissu. Alors que des générations et des générations et des générations ont eu des mouchoirs en tissu et ne sont pas du tout posé la question du mouchoir en papier. Mais voilà, moi, c'est mon défi. Et c'est mon défi depuis un petit moment déjà. Et je ne l'ai pas encore passé, ouais.
Je vais t'en offrir.
Oui, ça peut être des cadeaux. Hein.
Exactement.
Et merci à tous les deux.
Merci.
Il y a quelque chose de profondément tabou,
Jérémy Cavé,
autour du déchet, une forme de souillure associée à l'ordure qui est perçue comme éminemment dégradante.
Urbaniste.
Pourquoi ? Parce que les déchets, culturellement, en Occident tout du moins, renvoient directement à l'idée de la mort, de la finitude.
Sur arteradio.com.
De l'achèvement, de la corruption des organismes. Et ça, c'est des choses qui nous sont cognitivement intolérables. Qu'on a rendu culturellement intolérable parce que dans une société qui est focalisée sur la production, la performance, l'activité, tout ce qui renvoie à la mort et à la décrépitude est vécu comme quelque chose de honteux. Toute la gestion des déchets, telle qu'on la connaît aujourd'hui, repose sur un principe d'invisibilisation. Le système de gestion des déchets a été pensé pour que les gens n'y pensent pas. Il relève de ce rêve d'ingénieur, de ce rêve techniciste, où les déchets seraient évacués le plus rapidement possible vers des installations de traitement de manière aussi fluide que les eaux usées. On en vient à mettre complètement l'accent sur la production de biens, la production de services, et tout ce qui en résulte renvoie à une forme de finitude que l'on cherche à éclipser par ce culte de la production, du PIB, de la performance en permanence.
Merci à Anaïs et Arnaud du collectif Zéro Déchet Albi, rencontrés le mercredi 20 avril 2022 à la MJC d'Albi lors d'une soirée de rencontre pour la création d'une association officielle Zéro Déchet Albi. Vous pouvez contacter le collectif par courriel albi@zerowastefrance.org. Merci au café associatif Ophilao à Albi. Merci encore à Joël et Marie-Laure du magasin Food Vrac à Albi, rencontrés début février 2022. Merci à Arte Radio et plus particulièrement à Delphine Saltel du podcast Vivons heureux avant la fin du monde, dont on a entendu un extrait de l'épisode 7 intitulé Le recyclage est une ordure, datant de mai 2021 et à retrouver sur le site www.arteradio.com. Merci à France Info ainsi qu'à Alizé TV. Merci pour la musique à Olafur Arnald et à Fourtête pour les habillages. Merci enfin à Barbara et à Jacques Dutronc pour les pauses musicales. À 17.